dessous et des amours. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Gérard Mauger, je suis sociologue, directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne, un laboratoire fondé par Pierre Bourdieu il y a bien longtemps, un laboratoire rattaché au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, et puis par ailleurs, je suis membre du collectif Raison d'agir. Voilà, ça suffira pour la carte de visite.
Diable. Alors, je vous ai fait venir parce que je m'interroge quand même. Je date, il faut bien le dire, de l'époque où Georges Marchais existait encore. Et quand j'étais petite, j'entendais parler de classe sociale, de lutte des classes. Et c'est quelque chose qui me semble avoir complètement disparu du discours ambiant. Alors, ça n'existe plus, les classes sociales ?
Alors, c'est disparu du discours. Ça, c'est vrai. Ça tend à disparaître du discours, sauf qu'on va faire le contraire là, mais enfin bon, c'est de fait disparu du discours. Georges Marchais était sans doute dans l'univers politique, encore il y a Arlette quand même qui continue, hein, travailleuse, bon. Voilà, mais enfin bon, ça semble un peu marginal, alors qu'on ne pouvait pas considérer Georges Marchais comme un marginal du champ politique à l'époque où il s'exprimait, donc il était de différentes façons une manière de faire exister dans le discours, dans les représentations, la classe ouvrière, même on disait encore ça, dans le discours, donc dans les représentations, cet univers des classes populaires et plus spécifiquement de la classe ouvrière. Georges Marchais, par sa manière d'être d'ailleurs, hein, une façon de parler, une certaine forme de gouaille, etc., exprimait dans le champ politique une manière d'être populaire en politique qui est disparue, alors là, purement et simplement, mise à part peut-être encore Arlette, je le disais tout à l'heure. Et aussi, dans un discours politique aussi, hein, il parlait des ouvriers, il parlait de la classe ouvrière, il parlait de lutte de classe, ça lui arrivait même encore à lui, je crois, encore que bon, c'est le moment du virage, Marchais, hein, parce que moi qui suis plus ancien que vous, je pourrais parler de Duclos, ou de Valdécrochet, ou bon, voilà, je me souviens encore, où c'était ce langage-là était présent, où c'était un langage marxiste dans ses assises, et qui proposait une vision du monde construite, basée sur des classes sociales en lutte, hein, et le Parti communiste là-dedans, avec son grand syndicat qui flanquait la CGT, étaient les instruments politiques de cette lutte de classe en faveur des classes dominées, de la classe ouvrière en particulier. Alors, il faut bien dire que ce discours-là est plus tenu par grand monde, c'est vrai, en tout cas apparaît aujourd'hui comme très très marginal, et dans le champ politique, et dans le champ intellectuel aussi, hein. Je pense que les marxistes sont pas disparus, tant s'en faut, mais enfin bon... existe beaucoup moins qu'ils n'ont existé pendant tout un temps. Hein. On peut pas dire que le marxisme, on peut dire que le marxisme a cessé d'être l'horizon indépassable de notre temps, comme disait Sartre il y a bien longtemps. C'est vrai, mais pour autant, si les classes sont disparues du discours, je ne pense pas qu'elles soient pour autant disparues dans la réalité du monde social tel qu'on peut empiriquement tenter de l'étudier, voilà, tout simplement. Alors, c'est aussi peut-être même en termes de visibilité, je pense que s'il est vrai que les classes populaires ou la classe ouvrière sont devenues de plus en plus invisibles pour de multiples raisons, y compris des bonnes raisons empiriques, on ne peut pas en dire autant des classes dominantes, de la bourgeoisie, on pourrait dire, alors ça fait obscène, je sais bien de dire ça, mais c'est faut le dire exprès, hein. C'est-à-dire, la bourgeoisie, oui, est une classe mobilisée, particulièrement visible dans l'espace social, elle est dotée d'une idéologie propre, la pensée néolibérale telle qu'on l'ont construit les prophètes de la société du Mont Pèlerin, reprise au consensus de Washington, etc., elle est dotée d'organisations de combat dans le champ politique, le MEDEF quand même, ça existe et ça se voit, bon, M. Seyer est un porte-parole digne de la classe qu'il incarne, à mon avis, au mieux, de multiples façons, à la fois économiquement, mais aussi culturellement, dans sa manière d'être, etc. Enfin bon, bref, il est une incarnation aussi parfaite que Georges Marchais pouvait l'être, même peut-être plus réussi, des classes populaires. Donc ils existent à la fois, je disais, oui, idéologiquement, ils existent organisationnellement, ils existent dans le champ politique où ils ont de multiples relais, y compris d'ailleurs jusqu'à avoir conquis d'ailleurs les partis social-démocrates qui se sont ralliés finalement à cette idéologie de la bourgeoisie offensive d'aujourd'hui. Ils existent internationalement, on pourrait dire qu'il y a une internationale de la bourgeoisie, alors que bon, celle des ouvriers a fait long feu. Bref, en termes de visibilité, il y a une visibilité, il y a une classe au moins qui reste parfaitement visible, extrêmement organisée, très très prégnante, très très offensive. Alors, en face de ça, il y a une réelle invisibilité politique, symbolique, des classes populaires. C'est vrai que ça, c'est une véritable question. Poser ce qui ne veut pas dire que pour autant, elle soit disparue. Je ne pense pas. Tant s'en faut. Multiples raisons, en tout cas, qui permettent de penser qu'elle continue d'exister.
Mais justement, lesquelles?
On peut se poser la question de... Alors, on peut poser la question au moins, de deux façons, pour moi, classiques. Il y a la façon marxiste de poser la question de l'existence des classes sociales. Bon, c'est rappeler des banalités, mais bon, dire que voilà, on peut distinguer deux classes, fondamentalement. Hein, une qui détient les moyens de production, celle dont je parlais à l'instant, et puis une qui n'a que sa force de travail. Bon, ma foi, si c'est une vision simple, simplette, diront certains, à mon avis à tort, en tout cas, on peut dire que... dans son fondement, on peut pas dire que son fondement ait cessé d'exister. Il existe toujours, même si des choses ont changé, si la capacité qu'ont les classes dominantes possédantes, en particulier de conquérir de nouveaux alliés, ne serait-ce qu'en distribuant des stock options, par exemple, a élargi le cercle de la bourgeoisie et des classes dominantes. Bon, les choses changent un peu, mais bon, dans le fondement, à mon avis, d'une certaine façon, si on croit à ce fondement-là, alors il n'y a aucune raison de cesser d'y croire. Il existe toujours. Alors, c'est pas exactement mon point de vue à moi. Je pense que je serais plus proche d'un point de vue weberien, celui que Bourdieu avait repris et développé, et qui considère que le monde social ne peut pas être décrit seulement à partir d'une seule variable, celle du capital économique, mais à partir de multiples dimensions, une vision multidimensionnelle du monde social, donc qui intègre non seulement le capital économique, mais aussi, en particulier, le capital culturel. Bon, voilà, c'est peut-être le changement. Un des changements essentiels qu'introduit Bourdieu par rapport à Marx, introduire donc une vision multidimensionnelle du monde social, capital économique certes, mais aussi capital culturel, capital social, etc. Bon, et d'autre part, bon, l'idée, l'autre rupture par rapport à Marx, l'idée que, au fond, c'est une rupture avec une vision un peu intellectualiste du monde social qui tente à penser que des classes qu'on fait exister sur le papier, ceux qui n'ont que leur force de travail, bon, est-ce que pour autant ça fait une classe mobilisée, ça? Non. Bon, ce qu'introduit Bourdieu, je pense, c'est que il faut, pour que cette classe qui est sur le papier puisse exister dans le monde social, il faut tout un travail symbolique et politique, d'organisation, pour que la classe en soi, si on veut, sur le papier, devienne une classe pour soi, capable de passer à la lutte. Alors, de ce point de vue-là, si on se place dans ce cadre-là, on peut dire que les raisons objectives, la classe sur le papier, les proximités et les distances entre les différents groupes sociaux tels qu'on peut les représenter sur une espèce de carte du monde social, on peut dire que les inégalités sociales n'ont fait que se renforcer, voilà, depuis 30 ans, bon, alors que pendant 30 ans, elles avaient régressé, diminué, elles n'ont fait de nouveau que se renforcer. Alors c'est une situation un peu paradoxale d'ailleurs, où finalement on parle d'une forte conscience de classe qui existait très fortement, vous voyez, dans les 30 années d'après-guerre, alors que à cette époque-là, les inégalités régressent. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse, les inégalités de nouveau se creusent et, vous voyez, les consciences de classe, etc., se défont. Alors, ces inégalités, en deux mots, comme ça, bon, c'est d'abord des inégalités économiques, on en parlait tout à l'heure, donc des inégalités de salaire, voilà, en 2000, à peu près, un ouvrier gagne à peu près 2,5 fois de moins qu'un cadre, en moyenne, grosso modo. Voilà. Et inégalité de salaire, mais on oublie toujours une inégalité beaucoup plus fondamentale, inégalité de patrimoine, qui renvoie à ce dont je parlais tout à l'heure, la détention des moyens de production. Mais bon, les inégalités de patrimoine, c'est gigantesque. C'est de 1 à 70 au moins, quoi. Bon, sinon plus. Voilà. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça, de nouveau, même, ça se renforce. D'autres aspects de ces inégalités, c'est au fond le creusement, on pourrait dire, des distances sociales ou le maintien des distances sociales entre les différentes classes sociales. Alors d'une part, par exemple, c'est les chances de passer d'une classe à une autre. Chez les sociologues, on appelle ça la mobilité sociale, et qui passe essentiellement par le biais de l'école. Inégalité par rapport à l'école, rien n'a changé en la matière, fondamentalement en termes d'inégalité. Je ne nie pas la massification scolaire, mais on peut dire que, grosso modo, il y a une espèce de translation générale du niveau, mais qui maintient intactes les inégalités. Grosso modo, on peut dire, voilà, encore un chiffre, un enfant de cadre a aujourd'hui 21% de chances d'accéder à une grande école, et les chances pour un enfant d'ouvrier sont de 1,1%, quoi. Bon, c'est vrai que ça a plutôt régressé. De ce côté, la chance d'accéder aux grandes écoles pour les enfants d'ouvrier, ça a baissé, même par rapport au temps où moi j'allais à l'école. Voilà, un élément ouais, empirique qui valide l'idée de d'étanchéité des classes sociales. Les chances de parvenir au sommet, bon, bah, quand on vient d'en bas, elles sont toujours aussi faibles qu'avant, même peut-être plus faibles. Autre indicateur, par exemple, c'est l'homogamie. L'homogamie, vous voyez, c'est comment on se marie, avec qui on se marie. Bon, on continue de se marier entre soi, grosso modo. Hein. L'homogamie n'a pas baissé. Hein. Les ouvriers épousent les ouvrières et pas les bergères des princes charmants. C'est pas comme ça. Voilà. Encore un autre type d'écart. Bon, c'est des écarts dans le jargon bourdieusien, on dirait des écarts d'habitus de classe, c'est-à-dire de manière d'être, de penser, de voir, de sentir, de juger, les goûts, etc. Bon, autant qu'on puisse en juger à travers des indicateurs comme les indicateurs de consommation, par exemple, qui permettent d'objectiver les goûts, par exemple. Hein. Bon, eh ben là aussi, on constate une très grande stabilité. Hein. Les écarts restent massifs entre les types de consommation d'une classe sociale à l'autre, entre les classes dites classes moyennes, par exemple, et les classes populaires. Il y a, par exemple, autour d'un certain type de dépenses, les dépenses de loisirs, de vacances, des écarts absolument considérables qui les séparent de façon assez discriminante des classes populaires et qui indiquent, je crois, justement la perpétuation, hein, même si ça se modifie, de formes d'habitus de classe propres à ces différentes classes. Voilà pour ce que je peux dire comme ça de façon un peu schématique sur les inégalités objectives qui continuent, je crois, de fonder l'existence de classes sur le papier. Alors, le problème, c'est que ces classes sur le papier ne correspondent pas nécessairement des classes vécues, des classes pensées, des classes mobilisées, des classes agissantes. En tout cas, c'est très inégalement vrai.
Il y a un petit truc que j'ai pas compris là juste avant, parce que vous me dites, bah oui, finalement, les classes, ça existe, il y a des réalités objectives qu'on peut pas nier quand même. Et en plus de ça, on voit que les inégalités se renforcent. Il n'y a aucune raison en cela, en tous les cas, pour qu'on puisse plus parler de classes sociales. Mais pourtant, il y a eu une grande disparue, justement. C'est la, notamment la classe ouvrière, mais pas qu'elle, peut-être. Des petites classes moyennes qui ont été remplacées par des classes moyennes qui sont plus riches que de raison, peut-être. Et pourquoi subitement tout cela a disparu ?
Alors, je pense que c'est une question importante, décisive, même et compliquée, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque, simple. Je pense qu'il faut conjuguer de multiples facteurs. Alors, du côté, par exemple, du monde ouvrier, bon, on ne peut pas nier, bien sûr, les atteintes morphologiques, aurait dit, Alvax autrefois, qui ont à cet univers ouvrier. Hein, bon, d'abord, réduction numérique. Hein, les ouvriers sont moins nombreux qu'ils ne l'étaient. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont disparus. Hein, bon, ça, c'est une expérience drôle que faisait Pialou avec ses étudiants. On va demander aujourd'hui, il y a combien d'ouvriers, hein, des étudiants sociaux, combien d'ouvriers en France. Alors, il obtenait des réponses 200 000, 300 000, 600 000, 1 million. Hein, bon, voilà. Alors, la réalité, c'est pas tout à fait ça quand même. On en est, à l'heure actuelle, à 27,9% de la population active. Alors, c'est moins que ça n'était. Au maximum, ça a été 39,1% en 62. On est encore à 27,9, ça fait quand même pas tout à fait rien du tout, quoi. Bon, ça fait un peu moins que les employés, hein, qui eux ont augmenté de façon spectaculaire, sont passés de 7,9%, 7,5% en 62 à 29,9 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé même les effectifs de l'ouvrier, mais de peu, en sachant d'ailleurs que c'est important, je crois, la condition objectif de ces employés tend à se rapprocher de plus en plus à celle des ouvriers au point de devenir difficilement discernable. Ce qui fait que, grosso modo, on a quand même une masse de la population active de classe qu'on peut dire populaire pour faire vite, hein, qui représente plus de la moitié quand même de la population active, nettement plus de la moitié de la population active. Bon, donc, est-ce que c'est une chose, une donnée à peu près stable? Mais enfin, bon, reste que c'est vrai qu'il y a eu ces restructurations industrielles, la liquidation, hein, de secteurs entiers du monde ouvrier, qui étaient les bastions même de ce monde ouvrier, hein, qui étaient qui avait non seulement une valeur économique stratégique, mais aussi symbolique, stratégique pour ce monde ouvrier. Hein. C'est, bah, je sais pas, les métallos, hein, vous souvenez, l'industrie lorraine, vous parliez des années 80, bah voilà, ça a été liquidé. Hein. Bon, c'était un haut lieu de la classe ouvrière. Les mines aussi, bon, tout ça a disparu. Bon, donc, on peut pas nier, bien sûr, ça a été des atteintes à la fois matérielles, mais aussi symboliques, des transformations morphologiques essentielles de ce monde ouvrier. C'est un bout des choses, c'est pas tout. Hein. Il y a la mise en place aussi de nouvelles stratégie managériale aussi de la part de cette classe dont on parlait tout à l'heure, une classe organisée, puissante, efficace et combative, qui a contribué, je pense aussi activement, hein, à la démoralisation, on pourrait dire, du collectif ouvrier, à la fois en l'émiettant, c'est bon, à travers de multiples stratégies, on pourrait développer sur tout ça, hein, sur le développement de la sous-traitance, le développement d'un autre style de direction et de notre organisation de la production, etc., bon, qui vise grosso modo à l'individualisation de plus en plus grande, tout ça avec des effets, bien sûr, très corrosifs sur ces collectifs ouvriers. Bon, d'une part, il y a ça. Il y a aussi la montée du chômage de ces classes populaires, hein, bon, qui avec de la précarisation, qui, bien sûr, n'aide pas bon, à la cohésion et crée une espèce d'atmosphère générale de « on fait gaffe et sauf qui peut ». Bon, voilà, chacun essaie de sauver sa peau dans un univers de plus en plus difficile, menacé, fragile, insécurisé. Hein, bon. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui existent, on pourrait développer beaucoup, mais je pense que c'est tout à fait important. D'autres aspects aussi, à mon avis, qui contribuent à ce changement, il faudra en parler aussi longuement, c'est la massification scolaire. J'ai dit tout à l'heure que la structure des inégalités scolaires était maintenue, mais pour autant, la scolarisation massive, y compris et prolongée, hein, y compris des enfants des classes populaires, bon, a eu aussi, je pense, de multiples effets qui ne sont pas tous positifs, enfin, sur cet univers des classes populaires. Bon, donc ça, c'est tout un ensemble de facteurs structurels, je dis comme ça l'essentiel à un niveau, mais bon, c'est pas tout. Hein. Il y a aussi, alors, un autre niveau d'analyse. Il faudra aussi parler de la disqualification politique, hein, aussi des porte-paroles ordinaires de ce monde ouvrier. Bon, c'est le PC qui nous a parlé tout à l'heure, qui a été longtemps à 20-25%. Bon, on sait où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Bon, ça s'est pas fait en un jour, hein, cette espèce de débandade du Parti communiste. Bon, faudrait l'expliquer, en rendre compte. C'est pas tout à fait simple, là encore, mais c'est un défi pour les sociologues, tenter de comprendre pourquoi cette débandade du Parti communiste. Les taux de syndicalisation, hein, on était 40% de syndiqués dans 49, aujourd'hui on est à peine à 10%, quoi. Bon, désyndicalisation, dépolitisation, tout ça, le premier parti pour lequel votent les classes populaires, c'est évidemment l'abstention, ce parti des abstentionnistes qui est de très loin, on dit un peu vite que c'est le FN, hein. Je crois que bon, il faudrait constater d'abord que c'est des abstentionnistes, hein. Bon, alors que ces classes populaires votaient pendant longtemps massivement à gauche, et pour le PC de façon privilégiée, bon, ils sont réfugiés non pas sur Le Pen, mais sur l'abstention plutôt, hein. Je pense que bon, c'est voilà, un autre aspect de la question. Donc voilà, des bandades économiques, des bandades politiques, des bandades symboliques aussi. Hein. Je pense aussi, on peut le voir à différents niveaux. Alors on peut dire chez les intellectuels, et ça compte d'une certaine façon, c'est la débandade du marxisme, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Mais ça veut dire aussi, de façon beaucoup plus massive, par exemple, la disparition des mots de la tribu. Vous voyez, les mots qui faisaient exister la tribu, comme ouvrier, usine, patron, voilà, tous ces mots-là, classe, lutte de classe. Ça a l'impression d'être, vous voyez, c'est des mots dévalués, démonétisés, qui vous font passer un dinosaure quand vous les prononcez, bon, et alors à la place, on les a remplacés par vous voyez, tout un nouveau vocabulaire de rechange. Bon, alors ouvrier, c'est devenu opérateur, usine, c'est devenu entreprise, patron, c'est force vive de la nation. Bon, voilà, ouais, bon, on a transformé, vous voyez, le vocabulaire, d'une certaine façon, vous voyez, c'est ça, des changements symboliques, hein, qui vous font perdre le nord, littéralement, c'est-à-dire, vous voyez, des mots qui servaient de repères pour se situer dans le monde social, pour se penser soi-même, se penser par rapport aux autres, etc. Bon, on a démonétisé, dévalué ces mots-là, qui sont devenus imprononcés, imprononçables, et on a mis d'autres à la place. Et bon, défaire une vision du monde social, c'est aussi contribuer à en faire une autre, vous voyez, et entre autres, défaire cette vision du monde social divisé en classes, bon, qui a contribué, je crois aussi, vous voyez, dans le registre symbolique, politique, organisationnel, économique aussi, bon, il y a différentes raisons, donc, vous voyez, qui convergent pour expliquer cette espèce de phénomène bizarre de l'invisibilisation, en quelque sorte, de ces classes populaires.
Mais alors, à qui profite le crime, finalement?
Ah ben, je pense que c'est tout bénéfice pour la classe qui continue d'exister, ça, bien sûr. Hein, oui, je crois que, bon, ceux à qui ça profite, bah, c'est ces classes dominantes qui sont triomphantes, enfin, comme elles ne l'ont jamais été, enfin, aussi triomphantes, en tout cas, depuis belle lurette, quoi. C'est quand même, bon, oui, le siècle, on vit depuis 30 années, une espèce de bourgeoisie triomphante qui fait sa loi, qui fait la loi partout. Et bien sûr, elle le fait d'autant plus facilement qu'elle s'oppose à rien du tout, hein, qu'en face d'elle, elle a une résistante réduite à pas grand-chose, à néant, quoi. Mais enfin, bon, je sais pas, là, on parle de ce conflit d'Opel, par exemple, qui me semble être quand même un indicateur simple de la persistance du caractère le plus traditionnel qui soit des luttes de classe. De quoi il s'agit, grosso modo, hein? En un mot, il s'agit que les ouvriers d'Opel veuillent bien travailler plus longtemps pour un salaire moindre. Voilà, hein, c'est ça l'enjeu, quoi. Bon. Ça résiste là en l'occurrence un peu, quoi, mais on voit très bien l'enjeu, il est d'une simplicité biblique, quoi. quoi. Enfin, c'est tout à fait archaïque, hein, mais c'est pas moi qui suis archaïque, là, je ne fais qu'énoncer les choses comme elles sont. Hein, voilà, c'est cette lutte-là qui se poursuit avec une obstination féroce, butée, et il faut bien le dire, triomphante pour de multiples raisons, entre autres celles que j'ai indiquées tout à l'heure, qui fait pas de comprendre pourquoi, bon, en face, c'est difficile, quoi. Encore que, bon, là, il y a ce sursaut, bon, voilà, faut voir, quoi. En tout cas, le nœud du conflit, alors bon, ça, je crois que ça change pas assez peu, hein, très très peu, je suis désolé de dire des choses aussi archaïques, mais c'est pas moi qui l'ai dit, quoi.
Sur les représentations, finalement, elles sont faites par qui? Ma question est peut-être un peu bête.
Non, pas du tout, non. Qui les fabrique, ces représentations? Bah écoutez, il y a des professionnels d'abord de la fabrication des représentations du monde social. Les sociologues en sont, hein, voilà. Bon, il y a la lutte aussi chez les sociologues, ils sont pas tous d'accord, ils s'empaillent aussi, il y a de bonnes raisons pour ça, bon, on pourrait raconter les luttes au sein du champ intellectuel, donc, bon, il y a des producteurs de représentation du monde social, les sociologues en sont des professionnels de la presse, ils sont pas tout seuls, hein, il y en a d'autres, mais enfin bon, voilà, il y a eux, il y a... au-delà de la production, plutôt que dans la sphère de la reproduction élargie, ou de la production eux-mêmes, parce qu'ils peuvent très bien faire ça tout seuls, il y a le monde des médias, bien sûr, qui occupe une place tout à fait essentielle dans la production, la reproduction aussi de vision du monde social, la diffusion élargie de vision du monde social, et je pense qu'elle se fait bon, dans de multiples secteurs qui seraient indignés qu'on dise qu'ils font ça, mais en fait ils font ça aussi, ça je pense, hein, que cette espèce, par exemple, une espèce de structure qui organise, qui sous-tend des tas de visions du monde social, une espèce de darwinisme social, hein, que le meilleur gagne, quoi. Chacun pour soi, Dieu pour tous, etc. Voilà, qui est le fondement, la quintessence de la pensée néolibérale. Et on voit ça présent dans de multiples secteurs, y compris qui semblent les plus innocents, quoi, hein, comme, je sais pas quoi, moi, Starac, bon, il s'agit aussi de gagner, quoi, bon, d'être le meilleur, nanana, bon, voilà. Bah, c'est ça le jeu, quoi. L'espèce de jeu social, comme ça, qu'on met en scène perpétuellement, et dont on convainc les gens que le monde social est fait comme ça. Bon, c'est une espèce de jeu où chacun se doit de triompher, à condition que les dés ne soient pas pipés, c'est-à-dire à chance soi-disant égale, chacun doit pouvoir, nanana, etc. Bon. Alors, je pense que cette espèce de travail de diffusion, comme ça, généralisé d'une vision, de cette vision-là, libérale, on peut dire, hein, du monde social, elle est faite de façon très, avec une puissance extraordinaire, quoi, de sous cet univers médiatique qui contribue, hein, à diffuser, bon, voilà. Alors, c'est pas tout, hein, ben oui, c'est pas tout, c'est accablant, mais c'est comme ça. Non, on peut dire, l'école, bon, hein, les écoles de plus en plus dans la sphère dominante, hein, des écoles du pouvoir, comme disait Bourdieu, à celles qui produisent la noblesse d'État ou l'ancienne noblesse d'État, bon, où les écoles de commerce montent, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'ils diffusent, quoi, cette pensée managériale, ça n'est rien d'autre que ce dont je parlais là aussi, donc ils bourrent la tête bon, de leurs ouailles, de cette mode de pensée qui devient naturelle, en quelque sorte, vous voyez, comme s'ils vivent là-dedans comme des poissons dans l'eau, ce qui fait que d'ailleurs ils vous considèrent, quand vous pensez pas comme ça, comme un ostrogoth, hein, une espèce de fossile, bon, voilà, bon, donc oui, on peut dire qu'il y a, vous voyez, de multiples instruments de lutte, bon, qui contribuent à diffuser cette vision du monde social, bien sûr. Je veux dire, je sais pas, y compris des gens les mieux intentionnés du monde, vous voyez, quand les travailleurs sociaux qui s'occupent des RMI leur inculquent l'idée qu'il faut qu'ils construisent un projet, vous voyez, bon, nous avec un contrat d'objectif, machin, etc. Bon, voilà, ils construisent, vous voyez, chacun, enfin, ils inculquent, imposent en quelque sorte à chacun de se penser comme une espèce d'entrepreneur de soi-même, un espèce d'individu libre et conquérant, quoi. Bon, y compris à ceux qui ont le moins les moyens qu'il faut pour pouvoir être quelque chose qui ressemble à cet individu libre et conquérant, si tant est que ça existe d'ailleurs que dans les fantasmes, ça, bon, c'est une autre affaire, mais voilà, en tout cas, ceux qui sont les plus démunis de toutes les ressources qui permettent d'exister comme ça, c'est à ceux-là aussi, on leur impose cette vision-là. Et, bon, avec quelques chances de succès, parce que, bon, voilà, si vous voulez avoir votre RMI, il faut que vous fassiez, soyez gentils, que vous fassiez ce qu'il faut pour avoir l'air d'être comme ça. Mais ça, on fait rien sans que ça ait des effets. Tout ça a des effets. Donc, oui, je pense que, vous voyez, il y a massivement des instruments qui contribuent, hein, en quelque sorte, à imposer une autre vision du monde social. Alors, il faudrait se demander pourquoi ça marche. Hein, voilà, il faut aussi se demander, mais pourquoi cette vision-là marche. Alors, en un mot, comme ça, si je pourrais dire un mot, pourquoi ça marche si bien, y compris chez ceux qui ont le moins intérêt. Je crois que ça a à voir avec le fait que le discours que je tiens, moi, de sociologue déterministe, comme on dit comme ça, a toujours l'air d'un discours de rabat-joie. Hein, quand on dit les enfants des classes populaires ont très peu de chances d'entrer à l'école politique. Alors, ils disent quoi ? Ben quoi ? C'est parce qu'on est plus cons. Évidemment, c'est pas ça, quoi, je veux dire. Hein, mais bon, bon, il faut tout un long discours pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous voyez, bon, et donc on a ceux qui disent, mais si tu peux réussir, mon gars, vas-y. Vous voyez, il est plus facile à entendre d'une certaine façon, et ça passe mieux si on dit, mais oui, de toute façon, en plus c'est même pas faux. On pourrait dire que de toute façon, la ressource pour réussir à l'école, si on n'est pas un héritier culturel, c'est d'y croire. Hein, c'est la croyance qu'on peut, la croyance que c'est possible. Donc, vous voyez, entretenir la croyance et dire, mais oui, mon gars, vas-y, tu peux. Bon, voilà, on a plus de chance et c'est plus facilement audible que quelqu'un qui dit, vous savez, les chances que vous allez réussir sont très faibles. Hein, sont très, très faibles. C'est objectivement vrai, mais vous voyez, ça passe, voilà, c'est peut-être une indication, hein, qui permet de comprendre un peu pourquoi, bon, un espèce de discours réaliste peut passer pour un discours rabat-joie. Bon, et donc finalement se vend moins bien. Bon, alors pour qu'il se vende mieux, il faudrait montrer comment il peut être au principe d'une mobilisation non pas individuelle mais collective qui permettrait sans doute à tout le monde de s'en sortir beaucoup mieux, mais enfin bon, tout est à faire.
J'avais une petite question là-dessus sur comment on pourrait maintenant inverser la tendance. Alors je demande peut-être pas à ce qu'on se remette tous le petit poing en l'air en disant luttons camarades pour notre classe sociale, mais est-ce qu'il est possible de faire changer les représentations et par quel ressort?
Bah oui, je pense que c'est pas facile, mais c'est pas facile, mais je crois que bon, je sais pas ce que j'essaye de faire là ou ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est à voir, il me semble, avec ça, quoi, c'est-à-dire montrer justement, par exemple, que cette apologie de l'individu autonome, etc., c'est un leurre. Voilà, c'est un leurre désastreux, hein, pour tous ceux qui ont le moins la possibilité d'être des individus comme ils croient qu'ils sont. Voilà, hein, c'est-à-dire que pour être ces individus-là, autonomes, machin, etc., responsables, là, conquérants, et tout ça, et ben il faut avoir des ressources que ceux justement qui sont les plus démunis de ressources ne devraient pas, bon, adhérer à une espèce de vision du monde qui les invalide perpétuellement ou qui les renvoie même d'ailleurs, qui les culpabilise. Hein. Après tout, si t'as raté dans la vie, c'est quoi en substance dans ce cadre-là, c'est-à-dire que t'es idiot, quoi. Hein, bon, voilà, tout simplement, t'es un idiot. Nul n'a intérêt à se prendre pour un idiot. Hein, je pense que donc on pourrait renverser ça, hein, et montrer que ce discours-là est un leurre, hein, est un leurre illusoire. C'est-à-dire que en fait, non, c'est pas vrai. Oui, par exemple, si je reprends l'exemple de l'école, les enfants des classes populaires ont des chances infimes de réussir à l'école. Et s'ils réussissent pas, c'est pas parce que comme ils devoient le conclure dans le cadre de la pensée néolibérale, parce qu'ils sont bêtes, hein, mais parce qu'ils ne sont pas des héritiers culturels. Voilà, donc ils ont beaucoup plus à faire pour pouvoir réussir. Voilà, alors c'est une pensée déculpabilisante qui pourrait être génératrice de cette fameuse liberté, justement. Je pense que, oui, je crois que la sociologie peut être, sous certaines conditions, une pensée qui déculpabilise, par exemple, vous voyez. Et donc, de ce fait-là, qui est aussi une pensée libératrice. Encore faudrait-il qu'elle puisse se faire entendre. Il y a bien des handicaps pour ça.
Et bien donc, c'était Des Sous et des Hommes avec Gérard Mouget. Et la semaine prochaine, bah justement, on va essayer d'être positif à nouveau avec une sociologue. Ce sera Claude Pauliac. Et elle nous parlera de l'engagement. C'est un beau thème. Hein, voilà, à la semaine prochaine.